ce qu'on a abordé quand même aussi aujourd'hui, que les travailleurs sociaux sont quand même empêchés dans beaucoup, beaucoup d'endroits d'exercer leur travail. Alors, bien sûr, il y a un manque de moyens énorme. Énormément de postes sont vacants dans tous les secteurs. Mais aussi, on les enferme dans des contraintes, notamment de procédures qui ne servent à rien et qui bloquent l'exercice du travail. Voilà, enfin, c'est difficile qu'ils exercent dans des conditions, je veux dire, qui tiennent compte à minima de la clinique du sujet, de l'éthique. Donc la revendication porte aussi sur ces questions-là. Donc voilà, c'est cet appel. C'est vrai que bon, ils ont un site qu'on peut regarder. Mais écoutez, oui, on arrête là l'émission. On arrive enfin, et puis, rendez-vous le mois prochain, le troisième vendredi. Bonsoir.
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 Et le bouquin, là, vous l'avez en...
Sortir de sa cage et partir loin là-bas. N'être pas trop sage et aller au-delà. Pour y trouver quoi? Rien de plus qu'ici, juste un temps plus froid. Quel drôle de pays! Sortir de sa rage, fait-il vraiment si froid? Chercher le passage qui mène près de là. Pour ce que j'en crois, l'avenir cherche son pas. Rien de plus là-bas, juste un monde qui tresse sur les bras.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des Amis d'Orwell. Bienvenue dans les Amis d'Orwell.
Oui, bonsoir, désolé pour ce petit bug. Bon, ce soir, on vous propose une rediffusion d'une émission qui a été réalisée au mois de mai 2023. C'est à propos d'une rencontre autour d'un livre, Histoire de la rue, paru aux éditions Talendier. Et donc, on rencontre avec l'historienne qui en est l'un des auteurs. Daniel Tartakovsky. Voilà, bonne soirée, ça dure environ une heure.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's windows.
Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
La rue, voilà le thème abordé dans cette émission ce soir. On a assisté tout simplement à la présentation du livre L'histoire de la rue, paru aux éditions Talendier. C'était à la librairie Quilombo dans le cadre de Paris Malgré Tout, un festival littéraire et politique organisé dans trois librairies parisiennes jusqu'au 10 juin.
Elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Les trois librairies, le Pied-à-Terre, la Friche et Quilombo organisent jusqu'au 10 juin des moments de discussion et des balades autour de la ville. Et mardi dernier, nous étions à Quilombo pour rencontrer l'historienne Danielle Tartakovsky, qui a dirigé un ouvrage collectif paru en octobre 2022 chez Talendier intitulé « L'histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours ». Le livre dont on parle ce soir a été écrit par 5 historiens, citons en plus Joël Cornette, Catherine Saliou, Emmanuel Furex, Claude Gauvard et donc Danielle Tartakovsky. Un chapitre qui débarque d'ailleurs sur l'Antiquité, essentiellement ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Un autre sur le long Moyen-Âge. Ensuite, une période plus contemporaine, ordonner la rue, ça c'est des chapitres, ordre et désordre politique. Et puis la rue aujourd'hui qui commence selon les auteurs à peu près au moment de l'invention de l'automobile jusqu'à l'heure de l'urbain généralisé. On écoute donc Danielle Tartakovsky qui va nous parler des trottoirs de Pompéi, du Paris haussmannien, de la barricade bien sûr, puis de la manifestation, évidemment, et surtout du rôle de la rue dans les processus d'exclusion sociale. On l'écoute et juste après, on revient avec quelques questions des personnes présentes dans la salle.
Paris occupe une place importante, mais je dirais le moins possible. C'est un livre à vocation nationale, voire à vocation internationale, dans la mesure où on s'est intéressé au phénomène de circulation avec les modèles successifs. Alors, bon, l'Antiquité, évidemment, constitue une géographie à part. C'était l'héritage, mais l'héritage, il fallait bien qu'on le prenne dans une géographie différente. C'est Catherine Saliou qui est la grande spécialiste de la rue dans l'Antiquité. Donc elle, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que c'était la première, c'est l'Antiquité, et comme elle est spécialiste de la rue, d'une certaine manière, elle avait travaillé sur la totalité ou presque des indicateurs, et donc elle nous a gagné un temps fou d'une certaine manière, parce qu'il y avait une très grande modernité des questions posées par l'Antiquité. On voulait pas non plus. Bon, l'Antiquité était l'Antiquité, mais après, on voulait éviter de couper l'histoire en tranches chronologiques non pas nécessairement pertinente pour cet objet spécifique qui est la rue. Alors c'est Claude Gauvard qui nous a sauvés. On s'est vu deux fois et on s'est mis à écrire, et quand on a eu fini, c'était bon. Oui, alors c'est pas chronologique, mais c'est chronologique quand même. Je vous en expliquerai chemin faisant. Ce qui est sûr, c'est que la partie sur l'Antiquité porte sur l'Antiquité. D'abord parce que du point de vue matériel, on a là un héritage qui quelquefois est encore visible à l'œil nu, qui quelquefois est retrouvé à l'occasion de fouilles archéologiques dans le centre des villes, parce que c'est quand des archéologues au 19e siècle découvrent les trottoirs à Pompéi dans des fouilles qui se disent bah, finalement les trottoirs c'est peut-être pas mal, il faut généraliser les trottoirs. Donc là il y a un héritage technique qui est quand même tout à fait intéressant. Il y a un héritage théorique qui va circuler chez certains urbanistes plus que d'autres, qui va notamment circuler chez Poète, qui est le fondateur du musée d'histoire de la ville de Paris, qui a beaucoup travaillé sur Paris, donc avec une très bonne connaissance de ces textes théoriques qui ont circulé dans la longue durée. Catherine Saliou nous a cité Juvénal dans sa partie. Pour un peu, et par les temps qui courent, et où la méfiance prévaut partout, on pourrait presque dire que Boileau a fait du plagiat. On a aussi cité le fameux poème de Boileau sur les embarras de Paris. C'est pas de la traduction, mais ça s'en rapproche très, 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 de très près. Donc, je dirais, l'ensemble des problèmes, nombre de problèmes étaient là. Et qu'est-ce que je veux... En fait, ce qui nous intéresse sur le bouquin, c'est, je vais le prendre autrement. Dans un débat qu'on a fait, il y a mon interlocuteur qui m'a dit, mais alors vous avez travaillé pendant le Covid, comment ça s'est passé? Oh, bon, je lui ai dit, écoutez, ça nous on a écrit. Mais je dis, finalement, c'est intéressant que vous parliez du Covid, parce que pendant le Covid, vous inquiétez pas, je vais revenir à l'Antiquité, hein, j'ai pas oublié. on se mettait à la fenêtre, la rue était là. Il n'y avait plus de boutique, il n'y avait plus de terrasse, il n'y avait plus de passants, il n'y avait plus de voitures. Il n'y avait plus de chiens, il n'y avait plus rien. Est-ce que c'était encore la rue? Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas... Bon, bon, bien sûr qu'on parle des réseaux et de la dimension technique des réseaux et des mutations technologiques qui sont opérées au cours du XXe siècle. Mais ce qui nous a opéré, c'est de voir comment, en longue durée, cet espace qu'on appelle la rue, qui ne se comprend que par ce qui l'entoure, par ce qui la peuple, par ce qui la traverse, par ce qui s'y côtoie, par ce qui s'y combat, quelquefois, est un lieu en perpétuelle où chacun cherche en perpétuel sa place et comment c'est à la fois un lieu creuset, mais sans angélisme, et un lieu d'exclusion. Et ces problèmes-là, on les avait tous dès l'Antiquité, et après, il ne s'agit pas de dire que tout est toujours pareil et que rien n'a changé, mais c'est vrai qu'on a été, enfin, tous les quatre autres, hein, pour que notre connaissance de l'Antiquité était un peu lointaine, on a été fascinés par le texte de Catherine, parce que, du point de vue du droit, du point de vue de la réflexion sur les mots, de la multiplicité des appellations, c'est là, dans l'Antiquité, et encore une fois, c'est notre héritage à la fois matériel et pour une part intellectuelle. Et alors après, il y a une interruption. Parce que les invasions barbares, la chute de Rome, la crise urbaine, et donc il y a un trou dans le livre qui correspond à les villes s'effondrent, et avec elles, la notion de rue perd de ça. Donc notre histoire reprend vers le Xe siècle, au moment où il y a réémergence du fait urbain, et c'est Claude Gauvard donc, qui nous a gagné un temps fou et qui nous a permis de structurer le livre. Je vous ai dit que je rendais toujours à César ce qui était à César. Elle nous a dit, mais c'est le long Moyen-Âge de Le Goff. Parce que la rue dans l'Antiquité et la rue dans l'histoire, la rue moderne, il y a des différences, certes, mais si moi j'écris ma partie et que Joël écrit sa partie derrière, on va se répéter en permanence. Et les deux autres, c'est-à-dire moi, Emmanuel Furex et moi, on se serait aussi répété. Donc on a une deuxième partie qu'on a appelée le long Moyen-Âge de la rue, en empruntant à Le Goff. Ce long Moyen-Âge, dans un premier temps, enfin dans l'esprit de Claude, il allait donc du Xe siècle à l'époque moderne. Et Emmanuel Furex, 19e, a dit « Oui, bon, moi je suis désolé, les chiffonniers à Paris... C'est cette rue dont vous parlez, c'est cette rue bruyante, cette rue sale, cette rue menaçante, cette rue inquiétante, cette rue qui n'est pas entretenue, cette rue fantasmatique. »
Vous dites, vous écrivez que justement le tableau de Philibert Miducourt l'illustre parfaitement. Il se trouve page 111 pour ceux qui peuvent avoir le livre. Puisque là c'est vraiment ça, c'est défini le long Moyen-Âge de la rue.
Ouais. Et pour un peu, j'y aurais mis ma patte en disant que les lotissements des années 20 qui ont été étudiés par Annie Fourcault, ils trouvaient parfaitement leur place dans cette absence de rue, finalement. Ces pavillons qui sont construits sur des lots, mais qui ne sont pas, où il n'y a aucun raccord d'aucune sorte, ni à l'électricité, ni à l'eau, ni aux routes. Bon, puis on s'est dit qu'il fallait peut-être pas tout mettre dans tout qu'en tout. Alors, certes, à le Moyen-Âge de la rue, mais bien sûr, nous sommes historiens, et que je vous l'ai dit, nous ne pensons pas que tout est dans tout et à plein temps. Donc on a une troisième partie qui porte sur les innovations successives qui débutent avec la fin du Moyen-Âge. Faire de la rue un espace lisse et ordonné, qui est une obsession permanente, une volonté permanente des gouvernements successifs, je dirais, à la fois pour des raisons de circulation et pour des raisons d'ordre public, les deux. Hein. Tenir la rue, mais en même temps circuler dans la rue, parce que c'est quand même une de ses fonctions premières, étant entendu que les circulations sont multiples. Et alors là, on a effectivement des apports chronologiques successifs qui portent sur l'éclairage, qui portent sur la police de la rue. Enfin, là, on les prend chronologiquement. On prend la table des matières, mais on prend toutes les innovations qui visent encore une fois à clarifier, ordonner, structurer, maîtriser. Au départ, j'avais dit, j'y mets l'automobile, c'est la dernière des grandes mutations. Mais ça nous amenait à traiter l'automobile avant la Révolution française. On a eu pitié du lecteur. Alors,
et la trottinette.
J'ai gardé l'automobile. J'étais toujours la victime. Là. Et donc on a ensuite une quatrième partie. Là, on y est tous, sauf Catherine Saliou qui a dit c'est pas pertinent pour moi, qui est le rôle politique de la rue. Qui débute au XIIe siècle, hein, avec les luttes communales pour les libertés communales, qui a une centralité dès l'époque moderne, avec la Fronde, avec les guerres de religion, qui est bien sûr le lieu des révolutions. Donc cette spécificité française, qui est non seulement le rôle politique, mais la centralité politique des rues, et pas seulement des rues parisiennes, dans la longue durée. Donc là, on a tous... Et donc la dernière partie, dont je suis responsable, Je l'ai appelé la rue d'aujourd'hui, ce qui me posait une question, ça commence quand aujourd'hui? Et en fait, bon, alors je la commence avec l'automobile, parce qu'encore une fois, je vais à un moment donné, il faut quand même être un petit peu pédagogique. Mais finalement, ce n'était pas mon choix initial. Enfin, je veux dire, si c'était un bouquin que j'avais fait toute seule, pourtant uniquement sur la rue d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis ça? Ben parce que Haussmann, je sais, il n'a pas toujours une bonne cote. Moi, je ne suis pas une anti-Haussmann. J'ai été une anti-Haussmann acharnée. Je ne suis plus une anti-Haussmann acharnée. Parce que quand même, hein, il fait construire par les ingénieurs Paris, et puis il y a les villes haussmanniennes qui prennent quel modèle, c'est un modèle qui s'étend au-delà même de la France. L'automobile n'est pas inventée. Ça dure un siècle. Donc il y a quand même une capacité visionnaire. Alors on trouve que c'est bien ou pas, hein, je sais pas. Mais il y a une capacité visionnaire qui fait que l'automobile, donc inventée au tournant du siècle, va pas modifier fondamentalement les usages multiples de la rue jusqu'aux années 50. Et donc, moi, j'aurais volontiers commencé au moment où on commence à dire ça. Il y a une hégémonie d'automobile, il faut en tenir compte. C'est-à-dire Le Corbusier, c'est-à-dire Pompidou. Je m'excuse, je prends la photo, là. Bon, c'est le début du XXe siècle, hein, vous la regarderez en sortant. C'est une rue, c'est dans le 9e. Il y a tout dans la rue, pas sur les trottoirs. Hein. Il y a des voitures, il y a des chevaux dans tous les sens, il y a des piétons, il y a des marchands. Et là, l'automobile est inventée, mais elle est là au milieu du reste. Hein. Et en fait, donc dans cette rue d'aujourd'hui, je crois qu'il y a deux temps. Il y a le temps où effectivement la circulation automobile commence à devenir un tel problème que d'aucuns disent il faut restructurer la ville en fonction de l'automobile. Et à partir de là, c'est le moment initié par Le Corbusier aussi, qui nous dit, qui parle de la mort de la rue, hein, et qui dit que la rue est le chemin des ânes, hein, et qui assume la mort de la rue en tant qu'elle était précisément ce lieu de la complexité, ce lieu des... et puis, avec la mort de Pompidou, qui nous sauve en partie, s'agissant de... en tout cas du paysage parisien, et d'une série d'autres facteurs, on a ce que j'ai appelé le retour de la rue, et donc j'ai largement développé dans la dernière partie le retour de la rue dans le domaine urbanistique, dans le domaine artistique, dans le domaine politique, évidemment, hein, on pourra en reparler après. Voilà à peu près la répartition des tâches et le plan du livre.
C'est une bonne introduction. Alors, on va revenir sur certaines parties, sur certains points. Vous avez expliqué ce que Claude Gauvard et Joël Cornette appelaient le long Moyen-Âge de la rue. Et au 19e, pendant la révolution industrielle, ce qui se passe, c'est y a vraiment un changement de conception de la ville. Et la rue, on la conçoit avant tout à travers le prisme économique. Parce qu'en 1832, il y a une ordonnance de police qui déclare que la rue doit être spécialement affectée à la circulation. Ça va être
C'est le début de quelque chose qui va évidemment s'accentuer, va s'imposer de fait avec l'automobile. Quoi. Ben c'est antérieur, bien sûr.
Ouais. Et là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur ce 19e qui est...
Il y a la création d'un marché national qui s'opère progressivement. La création d'un marché national, c'est progressivement les trains, mais c'est aussi les routes. Et à partir de là... on est plus seul. Il y a le problème de l'articulation. Alors notre ouvrage porte sur la rue et la ville, mais il y a quand même quand est-ce que la rue devient la route et quand est-ce que la route devient la rue. Donc effectivement cette attention première pour l'économie, avec on a quand même on a essayé de pour nous, la rue, c'est la rue et les bâtiments qui la bordent et ceux qui la traversent. Hein, donc. Mais on a essayé de ne pas faire de l'histoire urbaine générale et de s'en tenir quand même à la rue. Il n'en demeure pas moins que la rue des cités minières n'est pas la rue, n'est pas la rue parisienne, n'est pas la rue des petits villages. Et donc on a quand même pris beaucoup d'exemples différents en fonction effectivement de la place dans l'espace national et des fonctions économiques.
Et alors, malgré tout, vous l'avez dit tout à l'heure un, petit peu bah, à travers les grands projets urbanistiques d'Haussmann. Est-ce qu'on peut dire que Paris est une sorte de laboratoire sur de la transformation des rues?
Alors, pas toujours, puisque par exemple, c'est à Caen que pour la première fois, on va numéroter toutes les... Il y avait des amorces de numérotation, mais la première ville où il y a une décision royale, pour des raisons militaires d'ailleurs, de mettre des numéros partout, c'est à Caen. Donc il y a quelquefois des initiatives qui viennent d'ailleurs, et je crois que c'est Joël, ou c'est... Enfin, je ne me rappelle plus. Bon, je crois que c'est Joël qui parle d'un monsieur qui a un nom nobiliaire, j'ai oublié lequel, à Paris... La numérotation se répand, et donc il se retrouve tout dans son hôtel, je ne sais pas si c'est à Saint-Germain ou dans le Marais, mais et il dit: je ne suis pas un numéro. Et il le prend très mal.
Pour les raisons militaires, c'est-à-dire?
À Caen, oui, c'était pour que il y avait des troupes en cantonnement, il fallait qu'elles puissent se retrouver un petit peu, la première qu'on y voit clair.
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des mouvements sociaux et des manifestations. Et donc, au Moyen-Âge et pendant l'époque moderne, il y a la révolte, elle naît, elle grandit, et elle se brise dans la rue. Et cette fois, la rue est finalement au cœur de la révolte. Donc, au Moyen-Âge, on assiste à des...
Ah, elle ne se brise pas toujours, parce que, par exemple, les communes, elles les obtiennent, leur charte communale.
Ah ben oui, oui, mais après, elle se brise quand même assez souvent, surtout au Moyen-Âge. Enfin, il y a des changements. Enfin,
ça dépend des révoltes.
Révolte des Ciompi en Italie.
C'est bien ce que je dis, ça dépend des révoltes. Ouais. Les révoltes communales qui sont appuyées sur la bourgeoisie, sur la bourgeoisie de ville qui sont des villes riches, je vous parlais de l'économie tout à l'heure, l'emportent, parce qu'il y a des systèmes d'alliance entre la monarchie et la bourgeoisie urbaine de ces villes florissantes, contre les seigneurs, alors que, évidemment, les révoltes populaires, au sens que nous donnons à ce terme aujourd'hui, finissent plus mal.
Assez mal, ouais. Parce qu'il y a le carnaval de Romans en Isère aussi.
Alors on a beaucoup travaillé sur toutes les formes d'investissement de la rue, donc bien sûr le carnaval. Bien sûr.
Et alors la différence justement entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est vraiment des batailles de rue assez brutales, mais assez fulgurantes. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fil des siècles et des révolutions, y a un objet qui va devenir le symbole de la rue en résistance, c'est la barricade.
Alors on a fait effectivement... Une bonne partie du chapitre 4, c'est la barricade en longue durée.
Oui.
Parce que c'était pratiquement le fil... barricade, barrique, l'étymologie de barrique, destinée... Alors, c'est intéressant, puisqu'on est dans un pays... la liberté guidant le peuple, elle est pas... Est-ce qu'elle est sur une barricade ou pas? Non, mais elle est sur des pavés, quand même, qui sont quand même métonymiques de la barricade. Et dans notre imaginaire, c'est bien clair que barricade, c'est quand même dans notre imaginaire, hein, je dis bien. Or, dans les différents épisodes de l'époque moderne, du 19e siècle, bien sûr, et encore en 68, sous la Commune, évidemment, la barricade est un élément défensif. La barricade... Donc au début, ce ne sont que des barriques avec des chaînes tendues. Sous la Commune, vous savez que ce seront de véritables constructions impressionnantes. Ça les empêchera pas d'être prises, évidemment. Mais la barricade est là pour défendre un territoire. Elle est là pour défendre un quartier. On attache beaucoup de... C'est une histoire sociale qu'on a faite. Elle n'est pas... sociale et politique, mais c'est beaucoup plus sociale et politique. C'est un peu de tout, mais la dimension principale, je crois pouvoir le dire, c'est une dimension sociopolitique, et plus sociopolitique, d'ailleurs. Il s'agit de protéger un espace qu'on considère comme sien. Et ça, c'est intéressant. Je vais prendre ce que je connais mieux, 68. Pourquoi est-ce que les étudiants font des barricades? Parce que la police leur interdit l'accès au quartier latin. Et le quartier latin, c'est eux, c'est chez eux. C'est chez eux. Et donc, il y a une dimension défensive de la barricade. de longue durée, qui, j'aurais tendance à dire qu'après 68, on a encore des citations de Barricade, mais pour moi, ce ne sont plus que des citations, on les contourne à droite, à gauche, enfin, bon, les gilets jaunes. Mais, parce qu'il y a cette longue histoire, avec tout un système de représentation, avec des chansons, avec le fait qu'on a pratiquement consacré un chapitre à ça, quand même, dans un ouvrage où on parlait quand même de beaucoup d'autres choses, quand on mobilise le mot barricade, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur la manière dont on évalue, dont on se situe et sur les espérances. Même si c'est un peu à contre-pied, puisque je le répète, c'est assez défensif et souvent ça finit mal, parce que quand c'est défensif avec des forces plus nombreuses qui attaquent, il est rare que ça finisse bien. Mais c'est vrai qu'on a là une... alors c'est pas totalement exclusif, le fait exclusif de la France, mais cette longue durée et encore une fois cette construction d'un imaginaire qui se relaie, la force des représentations, est quand même quelque chose qui est assez spécifique à la France.
Et parallèlement à ça, plutôt vers la fin du 19e, y a la manifestation de rue qui apparaît comme l'un des moyens de peser sur le pouvoir politique. Et Haussmann n'avait pas forcément imaginé que voilà, les aménagements qu'il allait faire, que le peuple allait pouvoir se réapproprier ces grands boulevards.
Je ne sais pas si le peuple est, parce que le mot peuple est aussi important d'un imaginaire et les premiers déploiements dans l'espace public, c'est peut-être pas exactement le peuple tel que nous le rêvons, mais c'est vrai que la géographie des manifestations parisiennes, en tout cas, mais un petit peu en province aussi, va chausser, c'est le cas de le dire, les espaces haussmanniens. Alors d'abord, il faut bien voir que la situation, s'agissant des manifestations, la province et Paris sont deux mondes différents, puisque la manifestation n'est pas un droit, elle n'est inscrite dans aucune de nos constitutions. Il faut attendre 1997 pour que le Conseil d'État en fasse, en termes de jurisprudence, une liberté constitutionnelle, mais c'est jurisprudentiel, c'est pas très dans la Constitution. Donc c'est un truc. On investit l'espace public, et ça, finalement, l'espace public, on l'investit, je disais, depuis le 12e siècle, quoi. C'est pas... Et ça a des noms, et ça peut être à l'occasion de formes traditionnelles que sont la procession, que sont le carnaval, que sont d'autres formes d'investissement de l'espace public. Je vais dire le truc que je rayais quand j'avais des étudiants, et l'homme depuis qu'il existe a toujours, etc. Hein. Donc l'homme depuis qu'il existe, en tout cas depuis les religions du livre, on marche. Hein, pour exprimer et pour dire non. L'Exode, on marche, l'Égypte, on marche, et Gandhi, qui n'est pas une religion du livre, marchera. Donc on a la marche et l'espace public sont des modalités, je dirais presque anthropologiques, du soulèvement et donc de l'expression, d'une volonté, d'ailleurs d'une volonté plus que jamais contre nous, peut-être. On dit non et on avance. Et donc, on trouve là les révoltes dont vous parliez, on trouve là les révolutions du 19e siècle. Elles se font dans le même espace, qui est l'espace de la rue, l'espace public. On trouve là nos manifestations. Le premier texte qui va, en creux, non pas les définir, mais j'ose même pas dire les régimes, les régir, c'est plus flou que ça, la loi municipale de 1884, qui donne aux maires le pouvoir de police sur leur commune, dans un de ses articles, dit que les maires ont le pouvoir de veiller au bon ordre des marchés, des foires, donc des rassemblements de toute nature, mais le mot manifestation, évidemment, n'est pas présent, il n'y a même pas défilé, enfin bref, tout ce qui regroupe. Ça veut dire que, puisqu'il a le pouvoir de veiller au bon ordre, on peut estimer en creux, c'est pas dit qu'il peut l'autoriser, puisqu'il y a le bon ordre, ou au contraire, il peut l'interdire parce qu'il n'y a pas le bon ordre, mais tout ça est... À Paris, vous savez que jusqu'en 1977, nous n'avons pas de maire élu, et que par conséquent, le traitement de ces questions découle directement du ministère de l'Intérieur. Donc, pour prendre une formule anachronique, c'est tolérance zéro. Donc, Il y a de très très rares exceptions, mais globalement, il n'y a pas de manifestation tolérée. Il y en a une en 1909, après l'exécution de Francisco Ferrer, le pédagogue libertaire, qui a été exécuté par le gouvernement espagnol. C'est intéressant parce que c'est la première manifestation internationale de solidarité et de protestation. On a appelé ça la Grande Protestation, la Grande Proteste, hein, parce que c'était d'abord en Espagne. Dans le monde entier, enfin, dans, en tout cas, le monde industrialisé entier, il y a eu des manifestations, souvent réprimées d'ailleurs, pour protester contre l'exécution de Ferrer. Et ce jour-là, il y a eu une manifestation anarchiste un peu agitée. Les socialistes ont repris le bébé en main en disant, en allant voir Clémenceau et en disant « Est-ce que vous nous autorisez de faire autrement ?» Et c'est la première fois que Clémenceau, donc on est en 1909, dit que dans des circonstances où on serait sûr, où le gouvernement serait sûr que des organisateurs seraient en position de maintenir l'ordre, on pourrait imaginer, c'était conditionnel tout ça, on pourrait imaginer qu'une manifestation puisse être tolérée à Paris. C'est là. J'ai pas d'autres exemples à vous offrir avant la crise de 34.
C'est là que le service d'ordre tombe.
C'est là que les hommes de confiance sont créés, puisque les socialistes vont effectivement faire preuve de leur capacité à ordonner. Alors, c'est d'autant plus facile. Enfin, je veux dire, Clémenceau peut d'autant plus se permettre cette entorse à la norme, hein, si, même si par ailleurs c'est Clémenceau briseur de grève et qu'on a des choses à lui reprocher dans les manifestations de province. Je le dis parce que des fois je me fais gronder, alors je préfère prendre l'initiative avant que vous me grondiez. Donc je sais que par ailleurs c'est Clémenceau briseur de grève, que c'est une manifestation contre le gouvernement espagnol. C'est plus facile de tolérer, de rôder le truc face à un gouvernement espagnol. Alors, ils ont protégé l'ambassade, comme on sait bien. Enfin, ils n'avaient pas les barrières anti-émeutes. Enfin, ils protègent l'ambassade, ça c'est normal. Mais c'est intéressant de voir que la première tolérée dans Paris, c'est contre un gouvernement étranger, pas contre le gouvernement. Et effectivement, les socialistes initient ce qu'ils ont appelé les hommes de confiance. Et d'autre fois, j'ai eu un journaliste, donc on parle au téléphone. Alors je demande toujours à relire parce que je parle vite, parce que. Et alors j'ai bien fait parce qu'il avait mis les hommes de confiance. C'était pas de sa faute, c'est parce que j'articule pas. Donc c'est pas des zones, c'est des hommes de confiance. Dans le terme de service d'ordre va s'imposer. Dans les années 30, comme ça.
Et donc, votre dernière partie, vous l'avez fait commencer à partir des années 50 avec l'hégémonie de la voiture et les rues n'ont pas d'autre choix que s'adapter à la sacro-sainte circulation. Mais pourtant, dès les années 70, il y a des voix qui se font entendre et on va exiger un retour à la rue. Il y a pas mal de monde qui critique.
Oui, à partir des années 70, il y a un phénomène de retour de la rue, mais ce que je le savais en politique, mais je peux m'en expliquer après si vous voulez, mais je ne veux pas tirer la couverture à mes manifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce retour de la rue, par retour, j'entends une volonté de s'approprier la rue pour ses propres pratiques, pour faire de la rue le lieu d'une co-construction d'objets nouveaux dans les pratiques qui sont les siennes. Qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse du street art. Alors j'ai fait la liste de tous les streets. Hein. Il y a street food, il y a street art, il y a le piano des rues, mais il y a une dizaine maintenant de streets qui se promènent, évidemment. Et donc c'est à la fois le retour de la rue, et puis, et je parlais des modèles anglo-saxons, des modèles américains, des appropriations nouvelles de la rue, qui débouche sur le plan artistique, culturel, mais aussi politique, parce que ça va de pair avec l'émergence, c'est au moment des contre-sommets de ce qu'on va appeler les artivistes, hein. Donc une espèce de, pas de fusion, mais d'articulation entre de nouvelles pratiques artistiques qui mobilisent l'espace public, parce qu'ils sont là pour être vus, dans le cadre de mobilisation politique, avec des acteurs qui modifient leurs pratiques politiques sous ces formes-là. Et c'était très intéressant de voir que tous ces gens ne se parlent pas. Bon, le théâtre de rue, bien sûr. Dans l'ensemble des secteurs, il y a des théorisations du retour à la rue. Alors là, moi, je connais bien l'aspect politique, mais le reste, j'ai lu. Hein. Mais j'étais absolument fasciné de voir que c'était absolument partout et que donc ça devient une question transversale pour des problèmes initiaux qui ne sont pas les mêmes, mais qui, fondamentalement, et par-delà, évidemment, les pratiques différentes que ça véhicule, selon qu'on est urbaniste, architecte, activiste tout court, ou artiste, ou tout ce que vous voulez, ça va de pair avec un glissement qui fait que, certes, retour à la rue, mais en fait, rue est de plus en plus remplacée par espace public. Et avec, évidemment, la bivalence du terme espace public. Donc, ce retour à la rue qui présente pour une part des caractères techniques va quand même de pair avec une réflexion politique sur l'espace public qui est finalement la démocratie. Et donc la dernière partie, de fait, est devenue politique, mais quand je dis politique, c'est pas de la politique comme j'en faisais dans mes autres bouquins, politique au sens où les acteurs réfléchissent à ce que leur rapport redéfini à la rue peut impliquer en termes de politique redéfinie, au sens évidemment le plus large possible du terme politique. Alors, je m'excuse, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais le dire tout de suite aussi, quand même. En longue durée, et ça, c'était quand même intéressant, on sait, parce que là c'est la rue s'empare, hein, que je suis en train de vous présenter. Ça, c'est la rue dont on s'empare pour faire des trucs chouettes. C'est vrai. Mais en longue durée, on a suivi de très près tous les phénomènes qui vont de pair, tous les phénomènes d'exclusion. Et alors là, c'est très intéressant. Je suis à la prostitution, on parlait de l'Antiquité. Là, Catherine Saliou, elle en a autant que nous. Et on a exactement les mêmes phénomènes d'exclusion des centres, de mise à l'écart. La France n'est pas l'Angleterre. Il n'y a pas eu de grand renfermement au sens où l'Angleterre a eu un grand renfermement. Mais on les suit en longue durée avec, évidemment, aujourd'hui, les pics d'or de l'abbé Pierre. Vous avez vu qu'on va reloger ailleurs nos sans-papiers de l'Île-de-France. On va les envoyer à la campagne. On ne sait pas ce que font. Bon, enfin, c'est terrifiant. Mais alors ça, je peux vous dire qu'on l'a tout le temps. Et alors, on n'a pas fait de chapitre dessus, mais c'est un des fils à peu près aussi directeur que la barricade, d'une certaine manière. Mais en pointillé, mais il est là tout le temps. Et la rue, c'est finalement toujours cette tension entre le lieu du, d'une construction ou d'une reconstruction d'espace public, mais l'espace public n'est pas toujours l'espace public pour tout le monde. Ou certains pensent que pour que l'espace soit public, il faut justement en exclure un certain nombre de gens.
Les amis d'Orwell ce soir sont avec Daniel Tartakovsky qui présentait le livre L'histoire de la rue cette semaine à la librairie Quilombo. On fait une petite pause avec forcément La rue qui est à nous et son morceau Le capitaine de la barrique.
C'est qui croque cul sec la pomme? Qui met du calva dans son rhum? Sa ponctuation fait des hics. Le capitaine de la barrique. C'est qui n'a pas eu d'enfant? Dis-moi, c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique. Le capitaine de la barrique. Et c'est qui chante allez roule? Allez roule et roule ma poule. Dans son bateau préhistorique. Le capitaine de la barrique. C'est qui pêche le varec et les emmerdes qui vont avec. C'est qui qu'a sorti Moby Dick. Le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste. C'est qui passe devant la crique. Le capitaine de la barrique. Dans le port de Montville-la-Rogue, il râle ses filets plein de gold. Le homard avec l'élastique. Le capitaine de la barrique.
navigue pas tout seul. Avec Elsa, son Jack Russell. C'est Kiki, un chien de cirque, le capitaine de la barrique. Quand il a noyé son permis, c'est Kiki a dit c'est à qui. La belle voiture électrique, le capitaine de la barrique. C'est Kiki en voyant la terre, de Jersey, île d'Angleterre, a gueulé vive l'Amérique, le capitaine de la
Retour dans Les Amis d'Orwell avec donc cette rencontre avec Daniel Tartakovsky. Cette historienne a dirigé l'ouvrage L'histoire de la rue, paru chez Talendier à la fin de l'année dernière. Et on a gardé des questions et des remarques des personnes présentes ce soir-là. La première concerne les libertés communales dont il a été question juste au début de l'intervention.
Au tout début, vous pourriez préciser un petit peu de quoi il s'agit ?
Oui, c'était dans les villes marchandes, et notamment les villes de Flandre, et puis toutes les villes le long du... C'est à une époque où là, les frontières de la France n'ont rien à voir avec les frontières actuelles. Hein. Donc, notre géographie, qui est quand même nationale, est une géographie mouvante, parce que les frontières nationales ont beaucoup évolué entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Et donc, notamment dans les Flandres, qui étaient les grandes villes de foire, hein, entre l'Allemagne et... qui n'était pas l'Allemagne, et la France qui n'était pas tout à fait la France d'aujourd'hui, se battaient pour obtenir, je dirais, des formes d'autonomie, pour employer un vocabulaire, donc le droit de lever leurs impôts en rétrocédant au pouvoir royal ce qu'ils lui demandaient, d'être maître à bord dans une relation négociée, on va dire, c'était des termes très modernes, avec la royauté. En échange de quoi, le roi leur donnait un certain nombre de franchises. Vous savez que les villes étaient entourées de... Il y avait des barrières commerciales à l'entrée des villes. Donc le roi leur donnait des franchises pour circuler d'une ville à l'autre dans les terres qui dépendaient directement du pouvoir royal. Et le cas échéant, le roi intervenait militairement pour les défendre contre tel seigneur qui voulait s'attaquer à leur capacité. C'était essentiellement des problèmes financiers. Hein. Des problèmes financiers et des problèmes économiques.
Aussi une question sur les noms des rues. Sur qu'est-ce que ça dit de
alors les noms des rues.
La mémoire de...
Les noms des rues. Alors donc, à la fin du Moyen-Âge, il y a des rues qui sont nommées, mais c'est pas forcément écrit. Hein, mais on appelle les rues par les professions, souvent. C'est des petites villes, et donc il y a la rue des Tisserands, la rue des... etc. Hein. Donc les rues par ou par la population dominante qui s'est installée. Il y avait beaucoup de France de rues. Dans le milieu de la France, vous avez des rues des Juifs, qui étaient les rues un peu ghetto, mais c'était pas des ghettos à... du 19e siècle, enfin c'était quand même un pire. C'était le quartier juif de la rue, mais le plus souvent c'était effectivement des professions. Mais comme notre histoire se déroule sur une très longue durée, Claude Gauvard montre que bien souvent, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, les noms qui sont des noms rentrés dans la mémoire, on les nomme comme ça, mais c'est pas écrit, ne correspondent absolument plus ou très peu aux mutations qui se sont opérées. Alors à partir du XVIIe siècle, on commence à avoir quelques appellations avec quelques grands hommes qui sont plutôt, je ne veux pas dire des écrivains, non, ce n'est pas des écrivains, mais enfin des savants. Enfin, c'est pas la règle. Et c'est avec le XVIIIe siècle, enfin, oui, c'est avec le XVIIIe siècle que le phénomène commence à s'étendre et puis il va se généraliser. Au 19e. Alors oui, évidemment, Ce qui est intéressant dans les ondes russes, c'est qu'on a, y a des strates. Enfin, dans une ville comme Paris, on le voit très bien. On retrouve encore à Paris des y a toujours à Paris une rue de la petite rue André et de la grande rue André. Bon, c'est là qu'il y a des restaurants les plus chics de Paris. Hein. Je vous conseille le Canard Laqué, mais il est hors de prix. Donc, vous ne craignez rien du point de vue des tire-bourses, mais vous craignez à cause du restaurant. Bon. Alors, à partir du 19e siècle, la dénomination des rues dépend du pouvoir municipal. Alors, ça peut être des administrés qui demandent à la municipalité de donner le nom d'un maire ou d'un résistant après la résistance, ou d'un militaire, ou que sais-je, ou d'un savant, ou de quelqu'un qui est né dans la ville, qui est devenu célèbre ailleurs. Et je dis un homme parce que vous savez que la féminisation de l'espace public est un phénomène relativement récent. Et il faut que ce soit avalisé par le conseil municipal. Bon, à Paris, c'était vrai par le conseil municipal sans maire élu, et maintenant c'est rentré dans la norme totale. Donc c'est un droit, je dirais que c'est un droit paréganien, mais c'est un droit oui, politique au sens, en tout cas des administrations municipales, que de donner un nom à la ville. Est-ce qu'il y a, je suis en train de chercher s'il y a des quatre préfets qui en auraient, je crois pas. On a vu que notre vice-présidente, notre présidente de la région a récusé le lycée. Aidez-moi. Merci. Mais c'était un lycée. Les lycées dépendent de la région. Donc les dons de rue, et notamment les dons de. Et puis alors, on a, dans le cas de Paris, on a beaucoup de rues qui correspondent au lotissement. Hein. Dans le quartier, il y a vraiment toutes ces petites rues qui portent le nom de quelqu'un. Il y a beaucoup de. Dans les villes nouvelles et dans les nouveaux quartiers, on décline. Des fois, alors, on décline les musiciens, on décline les fleurs, ou on décline. Enfin bon, il y a des. Mais s'agissant de Paris, on n'a pas tellement besoin de fleurs parce que le nombre de rues, malgré tout, est limité, la demande est forte. Et donc, vous avez pu constater qu'à Paris, il y a une démultiplication, c'est du temps de Delanoé, ça, des places qui ne sont pas des places. Hein, qui sont des coins de rue qui servent à mettre un nom qui servent à satisfaire un besoin, hein. C'est pas j'ai l'air de plaisanter, mais ça dit quelque chose sur un besoin.
Donc, j'aurais une question sur l'Antiquité. Je trouve qu'on a passé un peu vite dessus, mais...
Bah oui, forcément, je suis pas compétente.
Alors je vais essayer de. Alors, peut-être que c'est un fantasme de curieux et de béotien, mais est-ce que quand même dans ces temps très anciens, est-ce qu'on peut. Vous êtes arrivé à identifier des lieux ou des moments où on peut considérer que ça a été la première marche ou manifestation, c'est pas le bon mot, mais où la rue était occupée par des citoyens qui n'étaient pas forcément ceux-là.
Non, il peut y avoir des mouvements au sein de l'Agora, au sein du Forum, mm-hmm. ou au sein des équivalents dans les autres villes, ça, mais on est. Ça, c'est comme à l'intérieur d'un club révolutionnaire, on n'est pas dans l'espace public. Et il peut arriver, nous dit-elle, qu'en sortant de l'Agora et en sortant du Forum, ça crée un certain, certaine agitation dans les rues alentours. Mais elle a dit que ça serait vraiment tiré. Ça n'avait pas de sens pour elle d'intégrer ça avec notre chapitre. Non, on lui a vraiment posé la question. Mmh. On a insisté.
Une autre question au fond de la salle sur l'avènement des rues et des voies piétonnes.
Oui, alors il y a tout un développement sur les voies piétonnes. On a notamment passé une photo de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux et c'est pris un petit peu en surplomb. Et donc elle est bourrée, mais juste quand je dis de piétons, il n'y a plus un espace entre les murs et les piétons. Alors on a les voies piétonnes sont apparues en Europe, d'abord en Allemagne. Avec une relative facilité, si j'ose dire, parce que comme il y avait eu beaucoup de destruction, la reconstruction permet toujours de passer à l'étape suivante sans que ça crée justement trop de nostalgie ou trop de tension avec le passé qu'on élimine. Et ça a gagné ensuite la Grande-Bretagne, mais où il y avait eu des destructions aussi. Vous me direz qu'il y a eu des destructions en France, mais la France a été touchée un peu plus tardivement. Avec alors plusieurs phénomènes, des voies piétonnières qui étaient des voies piétonnières à dimension commerciale. Il y a eu des piétonnisations à des fins patrimoniales, là on retrouve ce dont on parlait. dépiétonisation, alors maintenant dépiétonisation à des fins de reconquête de la rue sur l'automobile, avec là encore des tensions, parce que on sait bien que la piétonisation génère des phénomènes festifs, c'est très sympathique, jusqu'au moment où ça n'est plus sympathique pour les riverains, et où il y a un phénomène de tension entre la vraie ville et la ville. C'est tous les trucs qui s'appellent la vallée village et je sais pas quoi. Il y a le retour de la rue, mais il y a eu le retour des villages pour désigner tout ce que vous voulez, qui vont dans le sens de cette nostalgie et qui correspondent pas.
Les villages de Marc, vous voulez dire, hein? Les villages de Marc.
Ouais.
C'est ça.
Vous... C'est le mot, avec le mot village.
Quoi. Oui. Oui.
Ah ben bah, le truc de.
C'est bien.
Ah ben c'est, je m'y habille, oui, absolument, il n'y a pas de... Mais, non, mais ça dit quelque chose sur la construction nostalgique. Alors, je dirais là, ça ne dérange personne, parce que c'est
loin. Ce que vous dites quand vous parlez du centre-ville, enfin, pas des riverains, la notion de riverain, mais par exemple, aujourd'hui, avec les locations... les locations pour les vacanciers, tout ça, des studios, le fait qu'il y a des quartiers entiers qui deviennent simplement des lieux de passage. Les riverains, il n'y a plus la notion stable, très très stable de riverain, elle est un peu écornée. Quoi.
Ah ben, ça participe du phénomène. Ouais, ça participe des tensions que je ne résous pas dans la dernière partie, mais des contradictions potentielles.
Ils ne se plaignent pas des bruits de roulettes que même provoquent.
Non, mais ceux du canal Saint-Martin, un petit peu quand même.
Ouais. J'avais plus une question sur la rue. Vous parliez des aménagements qui étaient le trottoir. Est-ce que oui, il y a d'autres aménagements que vous abordez, l'arrivée dans la rue ou sur...
Oui, les clous. Ben, ce que nous appelons les clous, il y a la Pompéi.
D'accord. Les quoi, les
clous. Enfin, à part que ce n'était pas des clous, c'était des passages piétons, Pompéi.
D'accord.
Et pour les bancs, enfin le mobilier urbain, en fait, ce que... Le fait de rester, en fait, de s'asseoir pour une période importante dans la rue. Que ce soit pas un espace juste de circulation,
ben, c'est tout mais ça, c'est tout le phénomène qui est très bien étudié par Emmanuel Furex en sa partie sur le 19e siècle. C'est la ville du 19e siècle, c'est la ville de Baudelaire, c'est la ville du flâneur. Donc le flâneur, il marche, mais le flâneur, il peut aussi s'asseoir. Et puis les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, etc. Et c'est effectivement un rapport qui devient un rapport de loisirs. À la rue, alors pas n'importe quelle rue, pas n'importe, mais avec avec des quartiers qui de bon, non, c'est pas mon bouquin, mais j'étais à une journée d'études là où j'ai évidemment tout ce qui manquait dans le livre, parce qu'il y a des tas d'intervenants qu'on ne pourrait pas parler. Mais par exemple, on a pisté les femmes du début à la fin. Alors par exemple, puisque vous me dites à juste titre que je n'ai pas beaucoup parlé d'antiquité, Catherine Saliou nous dit qu'à Rome, alors pour des raisons qu'elle ne connaît pas et que donc je ne pourrais pas vous expliquer, les femmes n'avaient pas le droit de se déplacer dans un véhicule attelé. Mmh. Et donc elles n'avaient pas trop le droit de se déplacer, donc elles allaient... Et puis comme ça finit par quand même créer quelques difficultés, quelques 50 ans plus tard, les femmes mariées ont le droit de se déplacer dans un véhicule attelé, mais pas les autres. Et ça c'est à Rome.
Okay.
Et alors par ailleurs, donc c'est pas dans le bouquin, mais c'est la partie parc des Champs-Élysées, Proust, hein, c'était un espace de la promenade, mais les femmes seules ne s'y promenaient pas, ou alors c'était suspect, si j'ose dire. Et c'est là qu'il y a et les femmes, surtout pas en cheveux, mais avec leur chapeau, ne s'installent pas non plus aux terrasses et cafés. C'est en même temps que les terrasses et cafés, c'est un peu comme vos bancs, hein, c'est une forme aussi d'appropriation autre. On regarde et on est regardé. C'est les cocottes, hein, qui sont installées là. D'où la création des salons de thé, qui sont peu nombreux à Paris, mais qui sont dans ces mêmes quartiers, qui deviennent un espace féminin. Où là, il est tout à fait peu. D'ailleurs, les hommes ne rentrent pas. Enfin, ils auraient le droit de rentrer, mais c'est pas pour ça. Quoi. D'ailleurs, on voit pas la même chose.
Est-ce que sur Haussmann, moi, ce que j'ai appris sur Haussmann, c'est qu'il a créé ces grosses avenues pour précisément prévenir les futures émeutes et pouvoir emmener la troupe, donc la police de l'époque, hein, la police de l'armée,
pour aller écraser les révoltes. Est-ce que ça, c'est fantasmé
disent,
ou...
Les historiens disent vraiment... C'est ce que les historiens ont dit à un moment donné. Les historiens ne disent vraiment plus ça, je dirais, archives à l'appui. Il est vrai que donc, la dimension circulation était première, et ça pouvait avoir comme effet secondaire de permettre le passage de la troupe, mais ça n'était pas un objectif stratégique.
C'est pas le cahier des charges, quoi.
Et en tout cas, si ça l'avait été, c'était plutôt raté. Parce que la commune, comme on sait, c'est après Haussmann et pas avant.
Exactement. Et puis Daniel Tartakovsky revient pour conclure sur l'origine de la manifestation.
D'abord, il y a, c'est 19e, hein, c'est résolument 19e, 20e. Mais 19e, 20e, il y a une masse d'écrivains et de poètes qui parlent de la manifestation. Je ne parle pas de la foule, de la manifestation. Des fois, c'est la merde. Ah, c'est d'ailleurs dans le Trésor de la langue française, le Trésor de la langue française dit que l'abréviation manif. Est utilisé pour la première fois par Aragon en 52 dans Blanche l'oubli, où Aragon écrit c'est vers cette période que les étudiants se mirent à parler de manif. Donc ça devient, c'est même une référence pour le dictionnaire, je dirais. Notamment dans les romans, Landrier, La Rochelle, de droite, de gauche, hein, ou d'extrême droite, d'extrême gauche, comme vous voulez. Enfin, c'est des mots dans la littérature française. J'avais des belles descriptions de manifestations. Mais la manifestation est toujours le moment où le héros se perd la femme aimée, ne retrouve plus la femme aimée, se demande ce qu'il fait dans la vie, et n'est pas du tout là où il est. Et c'est en général, c'est un nœud dans le roman. Donc j'en concluais que la manifestation était, du point de vue scénographique, d'une certaine manière, un espace de construction du récit qui fonctionne. Enfin, j'en avais trouvé trop pour que ce soit pas... ça mérite pas de le relever, quoi, voilà.
La chanson d'Edith Piaf.
Oui, on peut entraîner. Oui, à part que là, c'est la foule. Oui, c'est là, là, c'est Aragon qui parle de la manif Ridgeway. Oui, c'est pas. Ou Rieux-La Rochelle qui parle du 6 février 34. Enfin, on est sur du. On est, justement, c'est des militants à leur manière et dans des manifs qui ont marqué l'histoire.
Et pourquoi c'est important, février 34, justement, vis-à-vis de la manifestation, rappeler un petit peu le.
Alors le 6 février 34, c'est le. Nous sommes sous la Troisième République, qui est caractérisée constitutionnellement par une très grande instabilité parlementaire, parce que il est très facile pour les majorités de faire et de défaire les majorités. Donc à chaque fois qu'une majorité est mise en minorité, on change de président du Conseil. Et on n'est pas dans un régime présidentiel. Hein, donc grande instabilité parlementaire, on est dans une période de crise économique et politique et crise économique et politique et sociale, plus un scandale politico-financier. Daladier radical doit obtenir, se présente devant la Chambre, c'est après une xème crise parlementaire, pour obtenir la majorité. Et pendant que la séance se déroule, les organisations de la droite extra-parlementaire, dont l'une se réclame explicitement du fascisme, les autres, c'est plus con, les autres pas. Elles ont des stratégies différentes, enfin, elles ne sont pas sur la même position, mais, et elles ne sont pas négociées entre elles, mais elles appellent à manifester le même jour, à la même heure, autour de l'Assemblée. Ce n'est pas les mêmes points de rendez-vous, mais au total, ça fait un cercle autour de l'Assemblée. Et le gros de la foule est constitué par les anciens combattants qui ont été les premiers appelés à manifester. Ils ont des droits, hein, on est après 14, on est 20 ans après 14, pour les pensions. Et contre le régime des scandales. Alors quand on dit contre le régime des scandales, ça peut être contre le régime qui produit des scandales, ça c'est l'Action française, qui rêve d'une monarchie rénovée, ou ça peut être contre les scandales qui entachent le régime, ça c'est les anciens combattants. Et puis les autres, ils se situent... après vous avez autant de cas de figure qu'entre ces deux pôles-là. La manifestation, c'est une manifestation à la tombée du soir. Les manifestations d'anciens combattants sont tolérées parce qu'ils ont des droits. Manifestations de nuit, donc la police ne sait pas gérer ça. Donc, comme il n'y a pas de négociation préalable, enfin, donc très rapidement, la manifestation tourne à l'émeute. Personne ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire, y compris les dirigeants de chacune des organisations ne maîtrisent plus rien. Je m'appuie sur le compte-rendu de la commission parlementaire et qui conclut, on ne sait pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chef d'orchestre. Voilà, il y a pas de chef d'orchestre. Excusez-moi, j'ai c'est le bordel le plus total.
Il n'y a pas de meneur, oui.
Ben, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de meneur, comme disait Lebon.
Des meneurs, il y en a, mais tout le monde perd le contrôle.
Alors attention, parce qu'une manif dans les années 30, c'est 10, c'est 20 000 personnes, hein, c'est pas nos manifs à nous, hein, ça n'a rien de commun du point de vue des chiffres. Mais quand les anciens combattants voient que ça tourne un peu à l'émeute, ils remontent vers l'Arc de Triomphe. Vous me parliez des symboles tout à l'heure avec les plaques de rue, mais il y a aussi des symboles donc ils transforment la manifestation en hommage à ceux qui sont tombés, quoi. Et donc ils s'éloignent de l'Assemblée. Les jeunesses patriotes et l'Action française, qui sont... ont une bonne culture de la rue et une culture de la violence assumée, essayent de franchir le pont qui mène à la Chambre des députés à l'époque. Personne ne maîtrise plus rien. Et Daladier, qui vient d'obtenir la majorité à la Chambre, démissionne. Parce qu'il a le sentiment qu'il ne peut pas ramener l'ordre, parce qu'il prend des contacts. Mais la préfecture de police, qui est assez à droite, prend pas particulièrement d'initiative offensive. Il essaie de voir ce qui se passe du côté de l'armée. On lui fait... Les généraux lui font comprendre qu'il ne faut pas trop compter sur eux. Et il démissionne dans la nuit. Ça veut dire que la rue a gagné. Donc, y a un débat qui n'en finit plus entre historiens. Est-ce que c'était une tentative de coup d'état fasciste ou pas ? Je fais partie des historiens qui considèrent que si par coup d'état fasciste on entend la répétition de ce qui s'est passé en Allemagne, c'était pas exactement ça. Mais par contre, quand on a un président du Conseil élu majoritaire qui démissionne devant la rue, alors là il crée les conditions pour. Mais ce que je sais, c'est que les contemporains, socialistes, communistes, CGTistes, CGTU, Ligue des droits de l'homme, eux, ils y voient la répétition de ce qui s'est passé en Allemagne en 1933. Et donc, cette manifestation qui risque d'ouvrir la voie à quelque chose qui pourrait se rapprocher, peut-être pas du fascisme au sens italien et allemand, mais en tout cas de la mise en place d'un pouvoir exécutif fort, un petit peu comme le nôtre, on va dire. Mais elle va avoir pour effet, c'est une victoire à la Pyrrhus pour la droite, puisqu'elle va donner le coup d'envoi de la construction du Rassemblement populaire. Alors, c'est pas, ça dure deux ans, hein, c'est pas le lendemain. Mais le 12 février, puisqu'on parle des manifestations, il y a la première manifestation nationale, appuyée sur une grève nationale. La CGT appelle à une grève pour défendre la République. C'est en rupture totale avec ce qui a été sa culture anarcho-syndicaliste jusque-là, avec des manifestations dans la France entière. Et je dirais que c'est un peu un acte fondateur de notre manif de type moderne. Et il y a un décret qui est voté effectivement en octobre 35. Alors, le décret n'est pas voté pour. Ce n'est pas un décret de liberté. C'est un décret qui. Pas au contraire. C'est un décret qui peut.
Des contraintes.
Non. Non. Il pose le principe de la demande d'autorisation préalable. Ce qui permet la négociation. Non, c'est plutôt. Les préfets pouvant, dans des circonstances, etc. Interdire. Mais c'est le moment où c'est ce que Clémenceau avait subodoré en 39 et puis il avait tiré un trait dessus parce que quand même il y a des limites. Mais ça amorce le processus de co-construction de la manifestation, ce qui n'exclut pas des événements tragiques que nous connaissons tous et la situation actuelle qui nous retiendrait, mais qui est un autre sujet.
Mais qui est encore en vigueur aujourd'hui, on peut dire.
Ah, le décret, il a été un petit peu. Les délais ont été un petit peu. Et c'est en fait le seul texte jusqu'en 97. C'est le seul texte qui donne une place à ce truc qui jusque-là n'avait pas de nom, pas de statut, n'avait rien. Maintenant, ça existe en creux, quoi. Donc c'est pas, non, c'est pas rien. Mais c'est pas une nouvelle liberté, tu vois.
Et voilà, ce livre, L'histoire de la rue, paru donc aux éditions Talendier, se trouve bien sûr à la librairie Publico, mais aussi dans les bibliothèques de la ville de Paris. Toutes nos archives sont toujours sur sourier.info, les podcasts de chaque émission sur radio-libertaire.net. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire 1, 2, AO Radio. Radio Libertaire 89.4, de nouveau en direct sur l'antenne. J'ai juste, voilà, un petit souci avec du contact avec mon casque, ça faisait longtemps. Donc Radio Libertaire 89.4, de nouveau en direct sur l'antenne avec ce soir Guy qui est au micro vert et Yves qui est au micro bleu.
Exact, oui. Oui.
Salut.
Tu m'entends ?
Parfaitement.
Très bien, ça y est, oui.
Parfaitement. Eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
À tous nos amis auditeurs des nuits radiophoniques du vendredi soir. C'est The Post Non Radio Show.
l'émission comique. L'émission comique du vendredi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, bref, c'est l'émission du vendredi soir, c'est le Post Non Radio Show avec moi-même et je m'appelle Henrik. Et ça rime.
Tu trouves ça comique ?
Non, il fallait que je trouve quelque chose.
Non, mais l'économie comique, il y a plusieurs sens, quoi.
Ouais. Oui, j'allais dire cosmique. Mais
en cosmique, temps, voilà, c'est pas mal. Ouais, ouais.
Comique est venu avant, dans. Là, voilà, c'est sorti avant, en espérant que je tienne le coup, là, parce qu'après avoir mangé, j'ai.
Non, on n'est pas souvent en phase, donc t'as raison, cosmique.
J'ai une digestion un peu lourde. Ah, oh, tout à fait, j'ai envie de dormir, c'est grave.
Écoute,
Voilà, donc nous sommes de nouveau ensemble ce soir. Comme souvent, le vendredi soir, sauf absence et. Je dis que des banalités, là. J'ai un peu de mal à faire remonter la machine. Hein.
Oui, oui.
Je suis un peu à moitié ankylosé de lourdeur. Là, enfin, je vais vous laisser parler, j'ai quelques trucs à dire, mais je vais peut-être attendre un moment, voir si mon esprit se désembrume un peu des vapeurs... pas liquoreuse parce que j'ai pas bu, mais de la nourriture qui était fort bonne d'ailleurs. J'ai mangé du lapin. Donc, ah ouais, je mange de la viande. Chers amis, alors nous saluons nos amis auditeurs évidemment et Serge qui est malade, le pauvre.
Ah oui, oui.
Donc, toutes mes pensées pour Serge qui. Se traîne à l'imbago depuis quelques temps déjà.
Exact, oui, oui. La semaine dernière,
ouais,
déjà
c'est un peu, voilà. C'est un peu étrange. Pendant le sens que le l'imbago dure très longtemps. Ça peut durer longtemps, mais bon.
Oh, oui, si, des fois.
Ouais, oui, je sais, j'en ai eu. Ça peut être particulièrement long.
Oui.
Enfin, voilà. On va laisser de côté les petites misères intimes. Chers amis qui me secondaient dans cette émission.
Ah bah oui, oui.
J'ai pas envie de faire les annonces publiques au sort, j'ai la flemme.
Non, bah écoute...
J'ai la flemme de faire le moindre mouvement.
Ouais.
Bah je pourrais les faire, mais bon... c'est la semaine Antifa ou la quinzaine Antifa.
Oui, voilà. Bon, c'est la quinzaine, mais ça, bon, les gens peuvent aller sur Publico, sur le site même.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
Ah, ouais, voilà,
on peut les envoyer directement.
Oh, sur le site pour une fois, là. Et puis moi, je vais parler de la journée.
Voilà. On peut les envoyer. Donc le Publico, machin.
Ouais.
C'est pas difficile à trouver sur les différents.
Voilà,
je sais plus comment appeler ça.
C'est librairie-publico.info. Voilà.
Ouais, tu tapes librairie-publico, tu tombes dessus.
Voilà. Et puis, moi, je vais parler de la journée du dimanche 22, c'est dans deux jours.
Oui.
Parce que elle c'est. Donc, les journées Antifa, c'est sur 15 jours, il reste une semaine. Et puis, donc, c'est bien lancé, c'est en route. Et moi, je vais parler dans deux jours, réunion publique anti-nucléaire pour créer une coordination. C'est au CICP, 21 Terre rue Voltaire. Donc, je répète bien, c'est dimanche à partir de... Ben, ça commencerait à partir de... de 14h, je crois. C'est ça que j'avais vu. Oui, 14h. 14h, 16h30, il y aura pas mal de discussions et puis création de coordination, si c'est possible, en Île-de-France. Donc, un petit peu partout en France, il y aura ce genre de réunion. Ils disent que ça, oui, ça sera, c'est moi qui dis ça. Ça sera une relance, parce qu'il y a très longtemps que ça existait déjà, des coordinations comme ça, mais apparemment, faut recommencer, oui, parce que les autres sont tenaces. Hein. Alors, de 20h à 22h, il y aura buffet, projection, des choses intéressantes. Voilà, toute la.
Mais vous êtes à fond dans le nucléaire en ce moment,
toute l'après-midi.
C'est
Ben oui, parce que, comme je disais tout à l'heure dans l'émission d'Espéranto, quand en principe le gouvernement en parle comme ça, c'est que c'est déjà lancé. Les petites centrales, soi-disant, les projets, tout ça, quand ils en parlent, c'est que.
C'est déjà...
Ils n'ont pas l'autorisation, ils ont déjà lancé beaucoup de choses.
Ouais, c'est déjà en route.
C'est incroyable, oui, c'est déjà en route, quoi. Oui. Voilà, voilà.
Donc, ce qu'il y a. 6 au gouvernement.
Donc 21 terre rue Voltaire. Voilà, c'est dans le 11e, hein, c'est au CICP.
Du point de vue des, de la génération CLAT, là, on a 4 technologies différentes. Qu'est-ce que j'en compte ? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah bon ?
6 oui. Technologies différentes.
Attention, parce que Yves a bossé son sujet. Hein.
Non, je ne comptais pas parler de ça, mais j'ai travaillé voilà, un peu
ça,
le sujet.
Ça oui, sera pour une autre fois, mais c'est vrai que tu t'es lancé là-dedans. Je ne sais, sais pas pourquoi tu trouves ce sujet éminemment intéressant. Mais j'ai l'habitude avec toi, tu t'intéresses toujours à des trucs chiants.
Ben, parce que jusqu'à maintenant, enfin, ça va apparaître comme une défense, mais c'est pas forcément une défense, c'est des choix. Jusqu'à maintenant, quand on a l'énergie nucléaire, on utilise de l'uranium 235 en gros, quoi. Parce que ce qu'on trouve sur Terre, c'est du 238 à 97%. Et, ouais. À 3%, c'est du 235. C'est, ouais. C'est celui-là qu'on utilise. Autrement dit, on laisse de côté les 97% qui ne nous intéressent pas. C'est celui-là qu'on utilise dans les centrales nucléaires et c'est celui-là qu'on utilise également pour les bombinettes.
Ouais.
Les bombinettes A et puis pour amorcer les H, je pense. Et ces trucs de quatrième génération, ils permettraient d'utiliser 238. Donc on a des réserves incroyables. Tout ce qu'on n'a pas utilisé de 238 depuis, d'uranium de 238 depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 45-50 par là. Et donc ça c'est intéressant. Et alors donc ça nous ferait pour plusieurs milliers d'années de combustible. Ça, c'est l'argument qui développe, mais
il faut faire tourner aussi les centrales pour avoir du plutonium.
Ce serait pas. Oui, ça, je sais pas.
En plus,
mais ce qu'ils essayent de faire, c'est. Je vais perdre le fil, mais ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire en sorte que la réaction ne donne pas de produits qui soient fissibles sur des périodes courtes, longues. Ils cherchent en fait à faire en sorte que au début c'est du U238 et puis à la fin c'est des corps radioactifs mais à période très courte.
D'accord. Oui, oui.
Ils veulent absolument éviter et donc ça disparaît à ce moment-là assez rapidement. Bon voilà. Et puis
c'est vrai qu'en plus
on est en retard sur les pays qui aiment le nucléaire. Les Chinois, ils en ont déjà un de quatrième génération. Les Russes, je crois qu'ils en ont aussi. Les Chinois, c'est un projet de démo de lits de galets modulaires refroidis au gaz à haute température. C'est un qui a été mis en route en décembre 2021. Et l'idée également, c'est de produire plus de combustible qu'ils n'en consomment. Tout en détruisant les radioéléments donc à longue durée qui sont créés dans le réacteur au cours de son fonctionnement. Bon, ça y est, j'ai retrouvé la phrase. C'est plus limpide que ce que je disais avant, peut-être. Voilà. Bon. Moi, j'ai vu d'autres articles, parce qu'il n'y a pas que le nucléaire, et notamment un article qui comparait dans le temps les différentes sources d'énergie et qui disait que on allait avoir ce qui va beaucoup augmenter, c'est l'énergie solaire. Ça va prendre une place, ça va être 80% de la production, et le reste, ça va rester, y compris l'éolien, ça resterait, puisque c'est du futur, ça resterait à peu près en l'état, en ordre de grandeur, à la situation actuelle, ce qui concerne l'hydraulique, pareil, et donc le nucléaire réduit à portion congrue. Autrement dit, c'est pas l'avenir, quoi. On peut toujours le faire et dépenser du fric, hein. Mais c'est pas l'avenir. L'avenir serait plus dans le ITER, mais le ITER, c'est compliqué parce qu'il faut faire, il faut chauffer pour que la réaction pour que la réaction elle démarre.
Oui, c'est la fusion.
À 150 millions de degrés, je crois.
Ah, c'est tout.
Oui, c'est tout. Alors les Chinois, ils sont arrivés à 100 millions pendant 30 secondes, 100 millions de degrés pendant 30 secondes. Bon, effectivement, 30 secondes, c'est bien, mais. On n'est pas encore à ce niveau-là. Quoi. Et effectivement, ça ferait une énergie pas chère. C'est pas qu'elle serait pas chère, c'est qu'elle serait abondante, surtout. Et puis, comme ça utilise, je crois dire, sans me tromper, du deutérium et puis du tritium, le résultat de l'opération, c'est de l'hélium plus un proton. Plus un neutron, plus un neutron, et donc, cool, quoi.
Bon. Alors, tu sais qu'on englobe aussi beaucoup dans le solaire, aussi l'éolien, parce que l'éolien est produit par le soleil, donc...
En fait, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on soit fait complètement casser notre filière de panneaux photovoltaïques, par les Chinois, qu'on soit laissé faire complètement, parce qu'en fait, c'est ça, avec la faculté de garder l'énergie, maintenant qu'on a apparemment une industrie sur les batteries qui prend de l'ampleur. Bon, j'ai lu en tout cas un article où il défendait ce point de vue, et il disait que l'avenir était en fait au photovoltaïque. Et pas du tout au nucléaire. Bon, et puis le nucléaire, il y a toujours ce problème. Bon, je ne sais pas si je peux en parler maintenant ou si tu veux continuer.
Ouais, en plus, tu as été voir, j'arrive à le caser. Hein? Tu as été voir le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Donc, depuis, tu es dithyrambique, le nucléaire, tu sais tout.
Non, pas du tout.
Je fais ça.
C'est juste... le film est intéressant à différents égards.
C'est sur le développement de la bombe atomique, c'est ça, hein?
Oppenheimer. Ouais, avec le fameux
Oppenheimer.
La bombe A d'abord, la bombe H, c'est pas lui, c'est en 52, c'est plus tard, il s'occupe plus déjà, il a été viré en gros, quoi.
Oui,
c'était
assez... J'ai pas envie d'y dire plus. Si vous avez envie de le voir, allez-y. Il y a des gens qui font des mauvaises critiques parce que ça vibre dans les fauteuils, etc. Bon, effectivement, il y a 2-3 explosions où ça vibre. Bon, c'est amusant.
Mais à part ça, c'est sauf long. Ça a l'air d'un penseur.
C'est juste du cinéma.
C'est pas des vraies explosions, non. C'est dommage.
Je sais pas. Aucune idée. Pour moi, c'est du cinéma, ça reste du cinéma. Ouais. Maintenant, il arrive à faire des vibrations dans la salle avec une énorme explosion, notamment au départ. Bon, très bien, mais c'est pas le film. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça raconte sur les capacités des Américains à mettre en place une politique très rapidement, à l'époque déjà.
Oui.
Donc ça en dit long sur maintenant. Et puis, cette sorte de petite lutte qu'il y a eu, disons, entre bombe A et bombe H. Il a eu le dessus parce qu'il a fait remarquer que pour avoir une bombe H, il fallait d'abord maîtriser la bombe A. Donc ils ont commencé par la bombe A. Les Japonais en savent quelque chose. Voilà. Et la deuxième bombe, je crois, larguée au Japon, était plutôt plutonium. Bon, le plutonium, il a cet avantage qu'au lieu d'avoir besoin de 50 kilos d'uranium enrichi, il suffit de 10 kilos de plutonium. Mais c'est plus compliqué parce que c'est un résidu d'une réaction nucléaire qui est basée sur l'uranium-235. Quoi. Donc il faut déjà prendre de l'uranium-235 et en accumuler une certaine dose. Donc ça raconte cette première fois où ils essayent de faire une bombe et ils y arrivent. Et ils la font sauter dans un désert américain. Voilà.
Il parle de comment ils ont réussi à ce que ça soit transportable. Apparemment, c'est ce qui bloque l'Iran. C'est qu'ils ont la bombe atomique, mais ils ne l'ont pas au niveau petit pour être transporté en avion. ou dans un missile.
C'est assez vrai, parce qu'en fait, si sommairement on dit qu'il suffit de prendre deux morceaux de 25 kilos et puis de les rassembler, ça explose, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut que toute la matière explose. Or, si on rassemble seulement ça de cette façon-là, il va y avoir, la réaction ne va pas être totale. Donc, il n'y aura pas une explosion gigantesque. Donc, en fait, il y a toute une enveloppe, il y a toute une façon de réfléchir les rayons. Il y a des boulons explosifs qui entourent la coque. Bon, c'est un truc, c'est...
Déjà ça, au niveau développement, c'est...
Ouais. Et il y a des moyens informatiques qui sont ceux de l'époque, mais il y a des moyens informatiques. Bon, maintenant, on se contente en France et dans pas mal de pays de faire des simulations. Je ne sais pas en quoi elle consiste du tout, mais j'imagine que c'est la propagation de ces trucs de boulons explosifs pour que l'ensemble soit bien, bien atteint par... Enfin, que les protons, que les neutrons qui se dégagent de la réaction, puisqu'il y a... Que cette réaction, elle s'auto-entretienne dans des délais qui sont de l'ordre du centième de microseconde, un truc comme ça.
Oui, aïe. Oui, d'accord.
Donc, il faut que ça soit... Maintenant, le transport, celle qu'on voit dans le film, elle est relativement imposante, effectivement. C'est quelque chose... Enfin, c'est gros, quoi.
Ah oui.
À cause de ces problèmes d'enveloppe.
D'enveloppe, justement. Oui, oui.
C'est bardé de câbles, c'est bardé de trucs en ferraille. Il faut que ça soit réfléchissant. Par contre, la bombe H, ça comporte deux ou trois étages. Le premier, c'est une bombe A, et ensuite, c'est un mélange de deutérium et de tritium. Et le résultat, donc, c'est de l'hélium plus un neutron. Donc, c'est le rayonnement. Sur la bombe H. Mais ce qu'on comprend, c'est que Oppenheimer a vraiment, une fois la bombe A utilisée, il a eu beaucoup de réticence à faire autre chose, quoi. Et donc en disant que si les Américains la développaient, il y aurait d'autres pays qui la développeraient, et ça fait monter les enchères, quoi. C'est un peu contre ça qu'il essayait de lutter. Les Américains croyaient qu'ils avaient une avance de 10 ans sur les Russes, et en fait, ils n'avaient pas une avance de 10 ans, ils avaient une avance, je crois que c'est en 1949 que les Russes ont fait leur premier essai nucléaire. Donc,
de 4 ans.
Rapide.
Oui. D'accord.
Il y a quelques petites choses aussi qui émergent, parce que on a une phraséologie, disons, pour pas dire un autre mot officiel, qui dit le fait de larguer une bombe, ça a permis de terminer la guerre avec beaucoup moins de pertes du côté japonais, du côté américain, d'abord, du côté japonais, peut-être moins, mais... C'est un argument qui est discuté dans le film. Il y a une phrase ou deux sur le fait que, de toute manière, la guerre est finie. Et l'armée japonaise est battue, déjà. Donc, la bombe A, c'est déjà beaucoup, quoi.
Oui, oui, oui.
Moi, j'avais toujours entendu dire que ça a permis d'épargner. Si ça a permis d'épargner, bon, très bien. Mais là, c'est plus aussi évident.
Oui, oui.
La compte à la bombe H, donc, qui est beaucoup plus puissante, il est peut-être...
Moi, j'ai vu pas mal de documentaires, et apparemment, t'as raison, la guerre est finie, de toute façon, côté japonais, attention, hein. Mais c'était aussi pour impressionner côté russe, parce que les Russes étaient en train de pas d'envahir le nord du Japon, je crois,
Ouais.
Donc...
Moi, le problème du nucléaire... En France, sans parler de bombes, en parlant juste réacteurs pour les applications civiles, je ne sais pas ce que ça vaut la dispersion de ces petits réacteurs, mais enfin, si les petits réacteurs ne produisent que des matières qui sont à courte vie, bon, après tout, mais là, je tombe sur un article du Canard qui dit EDF serait-il en train de confondre vitesse et précipitation pour faire démarrer, après 12 ans de retard, son EPR de Flamanville. Donc, au premier semestre 2024. Donc, c'est le problème du contrôle, hein. Problème du contrôle. Alors, c'est la question posée par les inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, qui ont envoyé à l'électricien un courrier un brin alarmé. Pour arriver à boucler en 6 semaines des essais de qualification du réacteur entamés le 2 octobre dernier, EDF a grillé quelques étapes. De nombreuses activités, j'ouvre les guillemets, de nombreuses activités identifiées initialement comme préalables aux essais ont été reportées, faute de temps, à une phase d'essai postérieure, soulignent les inspecteurs. Plus ennuyeux, histoire de gagner du temps, les ingénieurs de Flamanville ont zappé l'installation d'une pompe de secours dont le montage attendra quelques mois. Mieux encore, EDF a décidé de reporter d'autres phases de tests sans en donner la raison au préalable. Conséquence, les inspecteurs qui ont trouvé la méthode un tantinet cavalière n'ont pu que recueillir oralement les justifications. Et en guise de bouquet final, ils ont découvert que la durée de validité de certains capteurs utilisé par l'électricien pour tester ses engins, allait expirer en plein milieu de la campagne d'essai. Le Canard met un petit commentaire. Quel talent. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est-à-dire l'IRSN, a mis lui aussi son grain de sel dans le chaudron de Flamanville. Dans un avis rendu le 4 septembre à la demande de l'ASN, ses experts s'inquiètent d'un risque d'explosion interne dans le système destiné à traiter les effluents gazeux issus du cœur nucléaire. EDF a bien tenté de les calmer en dégainant les études censées démontrer qu'une explosion n'aurait aucune conséquence grave. Pas de bol, ces garanties ont été jugées insuffisantes par l'IRSN, qui s'interroge désormais sur un possible écroulement de plusieurs locaux techniques en cas d'explosion. C'est un article de Hervé Liffrand qui termine en disant « Mais pourquoi s'angoisser pour si peu ?» Donc c'est ça le problème avec le nucléaire actuel qui est basé donc sur la fission. C'est tout ce qu'il y a autour.
oui, simplement. Oui.
Le PR, il est pas, c'est un truc de troisième génération, donc c'est toujours
ouais.
Les mêmes problèmes que première et deuxième en améliorant un certain nombre de choses. Bon, ça marche difficilement. On a perdu l'habitude de faire des centrales nucléaires. C'est un peu ça le problème qui ressort. Bon. Donc, moi, je trouve que le photovoltaïque, c'est sympa.
Oui.
L'éolien, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut apparemment l'un des systèmes les plus... près des côtes, il y a ces éoliennes flottantes dont on parlait la semaine dernière. Ensuite, il y a le paysage, il y a des partis politiques et sans doute des gens dans les campagnes qui apprécient pas beaucoup. D'autant plus que moi, j'ai déjà campé à côté d'une éolienne. Oh, elle était à, je sais pas, à 1 km. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est pas silencieux. Ça se voit pas forcément puisqu'il y a des oiseaux qui se prennent les pales en plein vol. Il y a cette histoire que je citais l'an dernier, à la dernière émission la semaine dernière, au large de l'île de Léron, on a un courant d'oiseaux migrateurs et on place des éoliennes pile poil sur leur trajet.
Oui, ce que tu as lu la semaine dernière, oui. Ouais.
Donc là, c'est du pâté, une fabrique.
Oui, de pâté. Oui.
De pâté.
C'est dingue.
Du pâté d'oiseau tout près.
Du pâté d'oiseau, il y aura des plumes. Enfin bon.
Oui. Enfin, dans le solaire, il n'y a pas que les récepteurs pour donner l'électricité, mais il y a ceux pour chauffer directement l'eau. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans tous les pays, maintenant, les pays chauds, donc. Mm. Et puis, les pays chauds commencent à ce niveau-là, même dans le nord de la France. Hein.
Mais en Allemagne.
Quand ça donne. Hein, chauffer l'eau, il n'est pas question de température extérieure. Hein, il peut faire moins 5, mais s'il y a du soleil, il y a rayonnement à l'intérieur. Donc, il y a le rayonnement qui est là pour donner les températures. Hein. Ah ouais. Mais ça, il n'y a rien pour l'instant de développer au niveau... Il y a quelques maisons comme ça qu'on voit à la campagne qui ont des panneaux solaires pour chauffer l'eau, mais il n'y en a pas en ville.
Il y a des toitures. Gens dans les campagnes, ils mettent des tuyaux noirs avec de l'eau dedans, qu'ils laissent, et puis ça fait des douches en pleine nature. Il y a un système un petit peu.
On faisait ça avec les grandes bassines dehors l'été.
Dès qu'on est dans une construction en ville, c'est vrai qu'il faut quelque chose de plus industriel, disons.
Pourtant, il y a beaucoup de toits plats, il y a beaucoup de terrasses, il pourrait y avoir énormément de choses. Alors, des éoliennes, c'est pareil, j'en ai jamais vu ici. J'ai vu beaucoup de publicité pour... la Hollande, le Danemark, etc., la Finlande, mais c'est des éoliennes qui sont horizontales, tu sais, qui tournent au niveau horizontal. Mmh. Sur les toits, sur les terrasses, il paraît que c'est formidable. Voilà, de mettre ces éoliennes-là. Il y a toutes sortes, quoi, oui. Ce qu'on veut absolument, nous, c'est centraliser. Voilà, on veut des grosses centrales, on veut que tout passe par une centrale. Ben non. Un village, il peut être autonome au niveau
de
son courant électrique, ou il peut avoir tous ses appareils les plus importants, je ne sais pas, qui sont à disposition de la population et que les gens utilisent quand il y a du vent, c'est tout. Quand il y a du vent, une éolienne, on met un compresseur qui est derrière, on fait des réserves d'air comprimé, c'est tout simplement. Quand il pleut, on utilise l'air comprimé dans les bouteilles et puis... On peut faire marcher des voitures avec de l'air comprimé. Ça peut énormément de choses. La plupart des choses.
Bon, on peut aussi stocker...
Ouais. L'air comprimé, c'est puissant, attention. Hein, c'est, ouais. Ouais. Dans les ateliers, j'ai toujours de l'air comprimé qui fonctionne dans les pistolets.
J'ai vu qu'il y a des essais aussi par gravitation qui marchent avec des éoliennes. C'est-à-dire que lorsque l'éolienne tourne, elle fournit de l'électricité et il y a un système de levage de masse importante. Et lorsque on a besoin d'électricité, on fait appel à ce système de levage qui relâche donc les masses importantes lentement et ça fait tourner les turbines.
Et ça fait tourner les turbines. Voilà, oui. Oui. Alors on peut faire aussi de la chauffe. Hein. On peut faire de la chauffe avec les éoliennes derrière. Hein. On met un frein et puis l'éolienne, elle tourne. Et le frein, il produit de la chaleur. Hein. Voilà. Quand on est mécanicien auto et puis qu'il y a une voiture qui arrive et puis on faut changer les plaquettes de frein, on ne met pas tout de suite les mains sur les plaquettes de frein hein, parce que les freins, ils peuvent être bouillants. Hein.
Oui.
Voire rouges. Hein. Moi, j'en ai vu en essai. Hein.
Tiens, à ce propos-là, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est une histoire de pneus. J'ai vu récemment, ces jours-ci, dans les articles qu'on trouve sur Internet, je n'ai pas vu dans Le Monde, que les voitures électriques usent les pneus plus rapidement que les voitures thermiques. Ah, ça m'a fait rigoler parce que je crois qu'ils citent des chiffres du genre 20 000 km un train de pneus à changer en voiture électrique. Et il faut dire qu'il y a, ça peut démarrer très vite.
Oui.
Et puis, au niveau ralentissement, il y a des récupérateurs d'énergie, etc. Bon, mais ça peut démarrer très vite. Moi, j'ai une Clio et donc je m'efforce de conduire pour utiliser le moins d'essence possible, évidemment, vu son prix. Et alors, j'ai fait 70 000 km avec mes 4 pneus. Je me dis, mais les gens derrière moi doivent s'énerver. Ça doit être terrible pour eux.
Mais
je conduis aussi, absolument sans accélération la plupart du temps, notamment dans Paris, mais également quand je mets toujours en route le truc pour économiser l'énergie qui bride un peu le moteur qui a 90 chevaux. Je me demande bien pourquoi et ils trouvent ça pas assez puisqu'il y a une Clio à 145, ce qui me fait rigoler parce que avant j'avais une 2 chevaux, je sais pas combien, mais il y avait 8 chevaux.
Chevaux réels comme ça, je ne sais pas, il n'y a pas énormément.
Peut-être 45
Oui, dans ces eaux-là, peut-être, oui.
Et
ouais.
Ma foi, elle allait vite, hein, c'était bien, j'allais sur les Côtes d'Azur, il n'y avait pas de problème. La distance, en plus, il n'y avait pas besoin d'eau, puisque l'eau devient rare. Bon.
Oui, effectivement, le moteur était...
Mais cette histoire de pneus liés aux voitures électriques, c'est pneus liés aux façons de conduire des gens qui ont des voitures électriques.
Ouais.
Soyons un peu plus sérieux, parce que sinon je ne vois pas tellement le rapport.
Non, la voiture électrique, quand on démarre, effectivement, il y a tout le couple qu'elle a.
Oui,
c'est le couple maximum, il est au démarrage.
Oui,
Mais après, plus il tourne vite, moins il peut capter d'énergie sur le rotor, donc... après, plus on accélère, moins ça donne après. plus oui, ça consomme.
J'ai vu sur Internet quelqu'un qui montait dans une grosse Tesla avec... Et alors, le conducteur disait à son passager, attention, tu vas voir ce que ça fait. Et donc, il roulait déjà et il met le turbo. Et à ce moment, enfin, c'est une image, évidemment, puisqu'il n'y a pas de turbo. Oui. Mais il met son système en
Yves,
marche.
Yves, arrête de frapper la table, s'il te plaît.
Il y a une accélération... Ah, excusez-moi, Serge n'est pas là pour me reprendre. Donc, ça se
ouais, moi, je suis là, moi.
Et donc... Donc on voit une accélération qui est gigantesque. Bon, bah ça se paye en termes de frottement et d'adhérence sur la route. Et donc voilà, il ne faut pas s'étonner si les pneus s'usent plus vite si vous roulez comme des petits fous.
Ouais. Ok, bah ça nous a bien usé tout ça.
Oui.